ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur RCF et vous écoutez l'émission de jazz comme à la radio. Bonjour Laurent.
Bonjour Alex, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors Laurent, récemment tu avais consacré une émission aux reprises de chansons françaises dans le jazz. Et aujourd'hui, tu vas creuser un petit peu plus en profondeur la question de l'utilisation des thèmes dans la musique de jazz. On dit souvent que le jazz, c'est l'exposition du thème, des improvisations, et on termine par une nouvelle exposition du thème. C'est souvent prêt, mais pas que.
Oui, oui, c'est vrai, dans la forme, il y a quand même une grande majorité des morceaux de jazz qui sont construits de cette façon. Il faut bien reconnaître que le thème n'est parfois qu'un prétexte, un moyen d'ouvrir les hostilités. Et ensuite, les musiciens donnent libre cours à leur créativité sans plus se soucier de ce thème. Alors, ce thème, donc, c'est dans ce cas-là, c'est qu'un support pour récupérer à bon compte une grille harmonique, comme ça a été souvent le cas dans le bebop, on aura l'occasion d'en reparler. Ou alors, le thème, ça sert à faciliter l'adhésion de l'auditeur qui est mis comme ça en confiance parce qu'il entend une musique qui ne lui est pas complètement inconnue. Alors, à l'autre extrême, il y a les nombreuses versions chantées, où le thème, voire le texte lui-même, joue un rôle central et laisse, dans ce cas-là, peu de place à l'improvisation. Il y a aussi des approches musicales dans ce qu'on appelle aujourd'hui la musique improvisée, qui s'affranchissent, elles, totalement du thème. Alors dans le jazz, donc, tout existe, et tout est son contraire, et c'est bien ce qui en fait l'originalité et la richesse. Souvent, c'est une amplification, une transformation qui va magnifier le thème original pour en faire quelque chose de différent. Le musicien de jazz va se saisir de germes contenus dans le morceau original pour les amplifier, les détourner, s'en distancier, les démonter et les remonter dans le désordre. Alors malgré cette diversité, on peut dire que le thème joue toujours un rôle important et on peut dire aussi que le morceau est réussi lorsqu'il transcende le thème. C'est ce qu'on va tenter de comprendre aujourd'hui en écoutant des morceaux qui ont été empruntés par les jazzmen à la musique populaire ou à la comédie musicale pour les magnifier. L'appropriation, le détournement des thèmes, c'est indissociable de l'histoire du jazz qui en est jalonnée. Ce sens du détournement est associé aux origines même de cette musique avec le sens caché donné aux chants religieux par les esclaves noirs. Par exemple, ils représentaient leur propre trajectoire au travers de symboles bibliques comme l'émigration et les persécutions du peuple juif. Alors cette appropriation du sens du morceau, et tout en respectant l'intention originelle mais en la magnifiant par la liberté qu'apporte le jazz, elle s'est poursuivie tout au long de l'histoire de cette musique. On va avoir une première illustration avec le célèbre gospel qu'on entend en ce moment, Nobody Knows, The Trouble I've Seen. Alors ce qu'on entend, c'est la version très grand public de Louis Armstrong. Et on va écouter maintenant une relecture par le contrebassiste Charlie Haden avec Ann Jones au piano, enregistrée en 1995.
Thank you.
vraiment extraordinaire d'écouter le son de Charlie Haden. À chaque fois, ça me fait des frissons dans le dos. Et donc, dans ce gospel, ou plus généralement dans le negro spiritual, le jazz naissant a introduit une forme originale pour habiller et pour masquer un détournement du sens du texte. Plus tard, le détournement du thème ira beaucoup plus loin avec parfois une quasi-inversion de l'intention originale du compositeur.
Et oui, un morceau grave peut devenir enjoué, ou à l'inverse, un morceau festif peut laisser transparaître l'angoisse et le questionnement. Il y a de grands spécialistes de ce type de détournement dans l'histoire du jazz. L'un des plus géniaux dans ce type d'activité était le pianiste Thelonious Monk. Les thèmes qu'il utilisait étaient pour la plupart des compositions personnelles, mais lorsqu'il s'attaquait à une mélodie connue, il commençait par la démantibuler avant de la reconstruire à sa façon. Un bon exemple, c'est le célèbre « Just a Gigolo ».
Was in a Paris cafe, at first I found him. He was a Frenchman, a hero of the war. But war was over.
Just a Gigolo, au départ, c'est un tango composé à Vienne en 1929 par Leonello Casucci. Et le morceau est devenu rapidement un succès international, il sera traduit dans de nombreuses langues. La chanteuse Irène Bordoni a été l'une des premières interprètes du texte français. Alors, la version qu'on entend en ce moment, celle de Bing Crosby, sera l'un des plus grands succès du crooner. Et c'est bien entendu Louis Prima qui en a fait ensuite une référence internationale en 1956. Alors, pour Monk, dont on parlait à l'instant, c'est un matériau de choix. Il y a introduit des tensions harmoniques et rythmiques puissantes. On va écouter la version de l'album qui s'appelle Monk's Dream, qui a été enregistré en novembre 62. C'est le premier album du pianiste pour la firme Columbia, et c'est l'album le plus vendu de la carrière de Monk. Après une longue absence, Thelonious revient en studio pour réaffirmer sa personnalité exceptionnelle. Et avec Just a Gigolo, le message du pianiste est clair. Je peux transformer n'importe quelle musique pour en faire un élément de mon univers personnel torturé. Thank you.
On voit bien avec Thelonious Monk que dans le jazz, l'intérêt du thème est justifié a posteriori par l'usage qu'en a fait le musicien. Mais la qualité originelle du thème joue également un très grand rôle, Laurent.
Et oui, souvent, comme on l'a dit, c'est le germe contenu dans le thème qui permet les envolées de l'interprète. Alors, il peut s'agir de qualités rythmiques, comme dans les musiques latino, de grilles harmoniques qui sortent de l'ordinaire, ou bien de la charge émotionnelle contenue dans la mélodie. Beaucoup de thèmes de jazz sont issus de la comédie musicale. Alors, parfois, le thème original est caricatural sur le plan émotionnel. C'est le cas du célèbre « One day my prince will come » et c'est le génie d'un Miles Davis qui en a fait ensuite un chef-d'œuvre. Mais parfois, le thème contient déjà une vraie tension qu'un autre génie, comme John Coltrane, va saisir, amplifier, s'approprier. C'est le cas de l'un de ses morceaux de bravoure, « My Favorite Things ». C'est une chanson de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, écrite pour la comédie musicale de Broadway « La Mélodie du Bonheur ». Et la chanson a été créée sur scène par Mary Martin, l'interprète du rôle de Maria à Broadway, en 59, qu'on entend ici en duo avec Patricia Newey. Dans le film « La Mélodie du Bonheur », sorti en 65, le thème est chanté par Julie Andrews. Et la version de la comédie musicale laisse déjà émerger une puissance émotionnelle qui tranche avec la légèreté habituelle de ce type de musique. La version de Coltrane que nous entendons maintenant est celle du concert de Copenhague en 63. Le saxophoniste en fait une véritable déferlante d'émotion.
RCF Nice Côte d'Azur, la joie se partage. Thank you.
Vous êtes sur RCF et vous écoutez aujourd'hui votre émission Comme à la radio, que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur podcast.fr en allant sur RCF tout simplement. Et aujourd'hui, Laurent nous explique l'utilisation des thèmes dans le jazz avec des thèmes pépites, comme celui que nous venons d'entendre. Il y a aussi les thèmes bateaux pour lesquels on peut s'arroger le droit d'un détournement. Et puis, il y a des thèmes icônes, ceux qui font partie intégrante de notre patrimoine culturel. C'est le cas de pas mal de morceaux de Gershwin, bien sûr. Pour la plupart, ils sont issus eux aussi d'ailleurs des comédies musicales, mais ils sont tellement intégrés dans l'histoire du jazz que l'on a du mal à y toucher. Et la parfaite illustration de cette situation est le célèbre Summertime, issu de Porgy and Bess.
Et oui, dans ces thèmes qui sont iconiques, c'est un peu compliqué pour le musicien de jazz d'en faire quelque chose. Alors finalement, il a trois solutions. La première, c'est de jouer le thème au plus près, en s'investissant ensuite davantage sur la partie improvisation. La deuxième solution, c'est de prendre le risque énorme de déstructurer, de désacraliser le thème. Et dans le cas de Summertime, il faut être un génie comme le saxophoniste Albert Ayler pour réussir ce tour de force. C'est un morceau que nous avons diffusé plusieurs fois et ça reste pour moi l'un des grands moments de l'histoire du jazz. Alors, la troisième manière pour s'en sortir, avec un thème de ce niveau, c'est de respecter sa structure initiale, mais de lui insuffler une dimension personnelle très dominante. Alors, pour y arriver, il est parfois nécessaire de venir d'un autre univers musical, comme la pop music par exemple, et beaucoup de musiciens de pop ou de classique saluent d'ailleurs la richesse musicale et technique du jazz, mais beaucoup aussi s'avouent totalement incapables d'y participer. Certains s'y essaient, avec plus ou moins de bonheur, plutôt moins que plus en général. Parfois, pourtant, ce sont des coups de génie, et pour ma part, deux incursions du monde de la chanson dans celui du jazz font partie de mes morceaux préférés, parce que la rencontre entre le thème et l'interprète aboutit à une symbiose explosive. La première incursion, c'est celle de Brigitte Fontaine, associée à l'Art Ensemble of Chicago, dans le morceau, par exemple, « Comme à la radio », que nous avons choisi pour générique et pour titre de notre émission. Et la seconde incursion, c'est l'interprétation de « Summertime », justement, par Janis Joplin, à Woodstock, en 1969. La chanteuse est alors au sommet de sa gloire, c'est comme un hommage à la fois aux racines de la musique noire et à la musique de jazz qui en est issue. Et c'est une version sublime qui commence par une petite intro légère qu'on écoute en ce moment, en clin d'œil à un autre univers, celui de la musique classique, pour célébrer ensuite les noces du jazz et de la pop, un pur chef-d'œuvre.
You know she is. Oh, hush, baby.
Summertime, Janis Joplin, extraordinaire souvenir. Et ce que les musiciens font du jazz est donc, Laurent, multiforme, multiculturel et on pourrait même dire multi-émotionnel. Avant de se quitter pour aujourd'hui, tu nous proposes de revenir à une forme de jazz qui a fait du détournement des thèmes une véritable spécialité, comme on dit à Nice, c'était le bebop.
Et oui, et le grand maître de cet art du détournement, c'était bien le grand maître du bebop, le saxophoniste Charlie Parker. Alors sa spécialité, c'était de s'attaquer à des institutions musicales. Il faut bien réaliser que dans les années 45-50, certaines vedettes de la chanson, des crooners notamment, étaient sacralisées par les médias et le public, et la version qu'ils donnaient d'un thème était comme immuable, gravée dans le marbre. Alors le jazz, lui, je dirais presque par définition, est iconoclaste. Et plus que toutes les autres formes de cette musique, à part peut-être le free jazz, le bebop a été iconoclaste sur le plan rythmique, sur le plan harmonique et mélodique tout à la fois. Alors on entend en ce moment à nouveau Bing Crosby dans la version d'un standard qui s'appelle Out of Nowhere, qui était composé par Johnny Greene. Et ce thème a été enregistré par Bing Crosby en 1931. C'était un de ses premiers grands succès. Et dans le jazz, c'est d'abord le grand saxophoniste Coleman Hawkins et le guitariste Django Reinhardt, tous les deux ensemble, qui l'ont fait passer dans l'univers du jazz. Et quelques années plus tard, la maturation de ce transfert a abouti à la version ballade de Charlie Parker que nous allons entendre pour terminer cette émission. Out of Nowhere par Charlie Parker.
Charlie Parker, pour nous quitter, ami de Comme à la radio, ami auditrice, ami auditeur, au revoir et à très bientôt. Au revoir Laurent.
Au revoir Alex, au revoir à toutes, au revoir à tous. Thank you.